Eh bien, bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Bienvenue dans l'émission matinale de BoMoNews. Noah va nous parler du dernier jeu Star Wars qui, à l'heure où je vous parle, est déjà sorti.
You were only a child when they sent you off to war. Now look at you. The weight of a galaxy on your shoulders.
Et oui, nous avons eu droit au nouveau jeu Star Wars nommé Star Wars Survivor. Il est sorti le 28 avril sur PS5 ainsi que sur Xbox Series S et PC. Star Wars Survivor se déroule 5 ans après Jedi Fallen Order, le premier du nom. Les deux jeux se situent après l'Ordre 66, qui est situé pendant l'épisode 3, La Revanche des Sith. Le personnage que l'on incarne est Cal Kestis, c'est un padawan qui a eu son maître qui est mort durant l'Ordre 66. Il y a de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau du sabre laser et un grappin. Pour ce qui concerne les nouveaux contenus, on trouve de nouvelles espèces d'animaux, de nouvelles planètes, de nouveaux adversaires tout aussi coriaces, ainsi que des personnages secondaires. Il y a aussi une exploration beaucoup plus libre via le contrôle d'animaux.
Et merci beaucoup Noah, on en apprend un peu plus sur ce jeu. Maintenant, Lucas va nous parler du jeu qui vient de sortir, Zelda Tears of the Kingdom. Et ce jeu, oui, qui a créé une foule bondissante devant les Micromania en pleine nuit.
Et oui, Nils, aujourd'hui, je vais vous parler de Zelda Tears of the Kingdom. C'est un jeu sorti il y a peu. J'ai eu la chance de pouvoir le tester, mais je vous en parlerai un peu plus tard. D'abord, petit contexte pour les non-initiés. On y contrôlera Link, le personnage principal de cette histoire, comme d'habitude, dans un Hyrule dévasté. Hyrule qui est le royaume où se déroule l'histoire, avec une carte quasiment 3 fois plus grande, ce qui n'était pas le cas dans Zelda Breath of the Wild. Car en effet, ce jeu se passe après les événements du premier jeu, où Link, après un sommeil de 100 ans, s'était réveillé pour vaincre Ganon, l'incarnation du mal, un ennemi très puissant. Plusieurs nouveaux systèmes sont maintenant présents, comme la fusion d'armes, la création de véhicules à partir de zéro, pour pouvoir se déplacer aisément dans cette nouvelle carte immense. Je pense que ce jeu est franchement très cool, et pour l'instant, j'y ai passé de très bons moments. Ce nouveau jeu fait mieux que son prédécesseur, en ajoutant beaucoup de contenu. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un, voire le meilleur jeu de 2023. Beaucoup essayeront de le critiquer en disant que c'est juste des DLC, pour un jeu qui aurait dû sortir en 2016. Mais non, les équipes ont en effet annoncé que beaucoup de contenus ont été recyclés de DLC de Breath of the Wild en fait, et que en fait il y avait tellement de contenu qu'un nouveau jeu était en fait nécessaire, car sinon il y aurait eu des vingtaines et des vingtaines de DLC et les gens se seraient plaints de payer 20€ par DLC. Et déjà que les gens pour un DLC se plaignent, alors s'il y en avait eu une vingtaine, je n'imagine même pas. Et c'est pour ça que pour moi, ce jeu est franchement très cool, il prend l'essence du carton de Zelda Breath of the Wild en le rendant bien meilleur. Dans Zelda 1, nous étions libres, maintenant nous le sommes encore plus. Chaque problème a des dizaines de solutions, ce qui donne une expérience différente pour chaque joueur.
Et merci Lucas, on en apprend beaucoup plus avec ça, merci beaucoup. Passons tout de suite à Michael, qui va nous parler du Super Mario Bros. Qui vient de sortir.
Les adaptations au cinéma des jeux vidéo sont rarement appréciées par les communautés. Ce n'est pas la première fois que Nintendo tente de mettre les pieds dans nos grands écrans. En effet, un film Mario de 1993 a déjà essayé de séduire le public cinématographique, en vain. Heureusement, cette fois-ci, Nintendo a été accompagné par le studio Illumination, le studio à l'origine de Moi Moche et Méchant, Le Lorax ou encore Comme des Bêtes. C'est grâce à ces studios que le héros de Nintendo a le droit à une nouvelle aventure au cinéma, animé cette fois, et qui promet de ravir tous les publics, des plus jeunes aux adultes qui se sont esquintés les pouces sur des manettes de NES ou de Nintendo 64. Alors, que vaut ce nouveau film Super Mario Bros? Voici ma critique, garantie sans spoiler. Alors, je risque de dire certains éléments importants dans l'intrigue du film pour faire un résumé, et je m'en excuse. Mario et Luigi, deux plombiers d'une agence, décident de lancer leur carrière seuls. Ils ont peu de succès et leur premier client n'est pas vraiment satisfait de leur travail. Par leur faute, Brooklyn se retrouve inondé et Mario décide avec son frère d'aller dans les souterrains de la ville pour sauver celle-ci afin de faire carrière dans la plomberie. Mais il tombe nez à nez avec un tuyau vert étrange qui ne ressemble pas aux autres tuyaux. Et quand il décide d'y entrer, Mario et Luigi se retrouvent dans un monde fantastique rempli de couleurs et de créatures nouvelles. Mais rapidement, les deux frères se rendent compte qu'ils ont été séparés. Nous suivrons donc les aventures et les rencontres de Mario dans un univers magique et fantastique, rebondissement et suspense garanti. Personnellement, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Il est truffé d'easter eggs de la licence de Mario Bros, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de l'univers de Mario. L'histoire n'est pas la même que celle des jeux, c'est un choix risqué mais compréhensible. En effet, l'histoire du film permet au public qui ne connaît pas l'histoire originale de Mario Bros. De quand même comprendre le film et de l'apprécier. Malheureusement, beaucoup de personnages cultes de la licence ne sont pas présents dans le film. Mais je pense que c'est voulu, car cela permet de possiblement faire une suite, voire une trilogie.
Et merci beaucoup Mickaël de nous avoir parlé de ce film Super Mario Bros. Passons tout de suite avec Lison, qui va nous parler de Ça s'est passé 1.
Ça s'est passé 1, 1er juin 1898. Le 1er juin 1898, à Paris, le Ritz ouvre ses portes à de nombreux clients prestigieux. À sa tête, César Ritz. C'est le fondateur de cette grande chaîne en donnant son nom à l'hôtel de Grammont. Ritz a su impliquer 2 milliardaires dans le projet. Il a fallu rénover et aménager l'hôtel. Il a fallu 10 ans à toute l'équipe pour rénover l'immense bâtisse du 15 Place Vendôme. Les travaux ont été réalisés par Christophe Hall, Carcara et Rouff en ce qui concerne l'aménagement des 159 chambres et Escoffier en ce qui concerne la cuisine et la gastronomie. Le projet a rencontré un immense succès. Le prince de Galles, futur Édouard VII, a déclaré « Là où Ritz va, j'irai ». La popularité croissante de l'hôtel a donné naissance à un adjectif, Ritzy, qui signifie « chic, élégant ».
Merci beaucoup Lison, on en apprend un peu plus sur Ça s'est passé 1. Passons maintenant tout de suite avec un métier insolite fait par Fanette.
Je vais poursuivre avec la chronique « Métier insolite » qui a pour objectif de présenter tout un panel de professions qui sortent de l'ordinaire. L'intérêt en tant qu'auditeur est d'ouvrir ses portes à des métiers hors du commun. Et pourquoi pas s'orienter vers cette vocation si cela vous plaît. Ces métiers peuvent être humoristiques, surprenants, divertissants, etc. Comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme cette émission est principalement tournée vers les jeux vidéo, j'ai décidé de vous présenter un métier plongé dans ce milieu, testeur de jeux vidéo. Le principe de cette profession est de repérer les points faibles et défauts dans un jeu pas encore sorti afin d'aider les développeurs à l'améliorer. Tester les limites du jeu, analyser les bugs potentiels, évaluer le niveau de difficulté du jeu, etc. Toutes ces actions du testeur de jeux vidéo sur une seule sortie de jeu peuvent durer quelques mois comme plusieurs années. Elles permettront de destiner le jeu au grand public. Son avis est important pour un succès commercial du produit. Dans ce métier, ils sont en collaboration permanente avec les développeurs informatiques, la plupart du temps dans un studio de production ou alors ils travaillent à domicile. Ils passent leur journée devant des écrans, il faut donc être passionné, mais également patient, concentré, avoir un esprit d'analyse ainsi que des bonnes maîtrises de l'anglais. Pour pratiquer ce métier, il est utile d'avoir un grand nombre de formations et de l'expérience dans ce secteur. Pour autant, il est possible de ne pas avoir de diplôme, mais il faut quand même une grande pratique et culture des jeux vidéo. Dans cette profession, il y a différents profils, des étudiants, des geeks, etc. Ils peuvent avoir passé un bac plus 2, comme par exemple un BTS métier de l'audiovisuel avec une option métier de l'image, ou bien un bac plus 3, une licence professionnelle métier du jeu vidéo. Mais il existe également d'autres possibilités. Le salaire est peu élevé, la base d'un SMIC, mais il augmente selon l'expérience et ils prennent plusieurs employeurs s'ils veulent augmenter leur salaire. Alors, après toutes ces informations, ce métier dans le domaine de l'informatique vous intéresse-t-il ? Merci de votre écoute.
Et merci beaucoup Fanette. Et c'est la fin maintenant de notre émission, l'émission matinale de Bomo News. On se retrouve très très vite. Au revoir.